without struggle, there is nothing. There really is nothing. So we struggle on.
El movimiento popular es perseguido sistemáticamente.
¡Presos políticos, libertad! ¡Presos políticos, libertad! ¡Presos políticos, libertad!
La otra campaña ha dicho claramente que si nos tocan a uno, nos tocan a todos, 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 todos.
En 2005, avec la publication de la 6e déclaration de la forêt Lacandone, la Sexta, diverses organisations, groupes, peuples et individus se sont joints à l'appel de Leuze et d'Hélène pour construire un mouvement anticapitaliste, civil et pacifique, en bas et à gauche, que nous appelons l'autre campagne.
Depuis la publication de la Sexta, les adhérents à l'autre campagne et les basapis zapatistes ont vu s'abattre brutalement sur eux une répression de plus en plus forte. Pour tous nos compagnes et compagnons des luttes emprisonnées, nous avons déclaré.
S'ils en touchent un, ils nous touchent tous.
Si nos tocan a uno, nos tocan a todos.
Depuis septembre 2008, a été lancée la campagne nationale et internationale.
Primero nuestros presos.
Le message de cette campagne est que chaque compagne et compagnon qui est emprisonné ne sera pas abandonné.
Ces efforts et actions ont déjà permis la libération de beaucoup de compagnes et compagnons, comme dans les cas de Atenco, de Oaxaca, du Chiapas, de Monterrey, de Puebla et de Campeche.
En solidarité contre l'oubli des prisonnières et prisonniers de l'autre campagne, nous vous présenterons leurs histoires, leurs luttes, leurs expériences, leurs combats et leurs voix.
Presos políticos, libertad! Presos políticos, libertad!
Sud-est du Mexique, état du Chiapas, prison de San Cristobal de las Casas, prison de Motocintla, prison de Cintalapa. Alberto Patistán Gómez, porte-parole de 13 prisonniers appartenant aux organisations La Voz de la Mate, Los Solidarios de la Voz de la Mate, Voces Inocentes et à la communauté de Mitziton, déclare
aujourd'hui, 29 septembre, nous sommes en grève de la faim et grâce à Dieu, nous sommes là tranquilles avec les compagnons. Comme je vous le disais, c'est pour démontrer qu'il y a une grande injustice dans ce pays. C'est ce que nous faisons actuellement, avec la grève de la faim indéfinie, et certains sont en gêne. On est à l'extérieur, sous un préau, dans la cour de la prison, organisé en piquet de protestation, en grève de la faim et en jeûne.
Elle et ils exigent leur libération immédiate. Suite à cette annonce, les familles des prisonniers installent un piquet de protestation sur la place centrale de la ville de San Cristobal de las Casas, où elles organisent leurs manifestations et la diffusion de l'information et où des émissions radio sont diffusées en direct.
Qui sont ces prisonniers et prisonnières?
Ils s'appellent Alberto Patistán Gómez,
Rosario Díaz Méndez,
Pedro López Jiménez,
Juan Collazo Jiménez,
Alejandro Díaz Sentis,
Alfredo López Jiménez,
Rosa López Díaz,
Enrique Gómez Hernández,
Andrés Núñez Hernández,
José Díaz López,
Juan Díaz López,
Manuel Heredia Jiménez,
Juan Jiménez Pérez. Ils et elles sont tous indigènes, ont été condamnés à des peines allant de 14 à 60 ans de prison pour des délits fabriqués par les autorités. Elle et ils n'ont pas eu accès à un avocat ni à un traducteur. Elle et ils ont tous été torturés pour leur faire signer des aveux.
Elle et ils appartiennent à plusieurs organisations.
La Voz de la Mate, organisation de prisonniers, née dans la prison, elle a Mate et qui a pour but de dénoncer les conditions carcérales et l'injustice dont fait l'objet les détenus, ainsi que de faire sortir leur voix à l'extérieur. Cette organisation a déjà lancé en 2007 une grève de la faim de 40 jours qui a permis la libération de tous les participants, près de 50 prisonniers, sauf celle d'Alberto Patistán, alors porte-parole du mouvement. Le Solidarios de la Voz de la Mate, organisation plus récente, est solidaire à la Voz de la Mate. Elle est composée de prisonniers n'ayant pas participé auparavant à des mouvements ou des luttes. Las Voces Inocentes est une organisation qui est née après la grève de la faim en 2007. Elle est composée d'ex-détenus et de leurs familles pour dénoncer les conditions de détention et l'injustice. Un de ses membres a été réincarcéré sous de fausses accusations de meurtre quelques mois après sa libération suite à la grève de 2007.
La communauté de Mitziton est une communauté indigène, membre de l'autre campagne, qui défend ces terres contre des projets touristiques qui veulent les expulser et dont deux personnes ont été incarcérées. Durant cette grève de la faim, les grévistes ont subi de nombreuses pressions et harcèlements. Le 13 octobre, les deux prisonniers de Mitzitone, Manuel Heredia Jiménez et Juan Jiménez Pérez, sont libérés. Le gouvernement essaye de diviser les grévistes en diffusant des fausses informations dans la presse. Informations aussitôt démenties par un communiqué de la communauté de Mitzitone, apportant sa solidarité aux grévistes et exigeant leur libération. L'administration pénitentiaire augmente la pression en harcelant les grévistes dans les prisons. Les prisonniers sont photographiés jusque dans leurs cellules. Un psychologue harcèle Rosa Lopez et menace de lui enlever son enfant de 2 ans qui vit avec elle en prison. Juan Collazo est menacé d'être envoyé au Mitar s'il n'abandonne pas son jeune, à quoi il répond en se mettant en grève de la faim. Les prisonnières et prisonniers ne cèdent pas aux intimidations et continuent.
Le 20 octobre, Alberto Patistán Gómez, porte-parole des prisonniers et qui était à l'origine de la grève de la faim de 2007, est transféré dans une prison de haute sécurité à plus de 2000 km du Chiapas. Il y est enfermé en cellule 23 heures sur 24 et n'a le droit qu'à une visite tous les 3 mois par une personne de sa famille directe. Le premier contact direct avec lui n'a pu être effectué que le 8 novembre, où sa fille qui l'a visité a fait part de ses conditions de détention et a dénoncé le fait que l'administration pénitentiaire lui ait retiré ses médicaments pour son glaucome. Le 28 octobre, Natanael López López, le premier enfant de Rosa López Díaz et d'Alfredo López Jiménez, âgé de 4 ans, meurt car les hôpitaux du Chiapas ont refusé de s'en charger car les grands-parents qui le gardaient n'avaient pas de ressources. Natanael était né avec une paralysie cérébrale suite aux tortures que sa mère, Rosa, enceinte de 4 mois, avait subies lors de son arrestation. Les parents n'ont été avertis du décès que le 2 novembre, les empêchant ainsi d'assister aux funérailles. En réponse à cette injustice, Alfredo s'est déclaré, en plus de la grève de la faim, en grève de la soif 12 heures par jour. Le matin du 4 novembre, les prisonniers et prisonnières adressent ce message à tous.
Bonsoir compagnons et compagnes qui nous écoutaient dans cette émission et dans cette fréquence libre. Aujourd'hui, 7 octobre 2011, nous rendons public notre décision d'arrêter notre grève de la faim. En raison de la gravité de notre situation de santé, étant donné que nous avons eu beaucoup de complications au niveau de nos états de santé et avant que ne soit plus difficile notre récupération physique, nous avons décidé d'arrêter notre action de grève de la faim, mais cette décision ne signifie pas que nous renonçons. Au contraire, nous continuerons à lutter toujours pour la justice et la liberté de tous. Alors je veux aussi dire que pendant les 39 jours de grève de la faim, le gouvernement a ignoré les demandes du peuple et de nous tous. Mais ce n'est pas une raison pour cesser de lutter. Mais au contraire, nous continuerons à lutter avec plus de courage et nous le démontrerons dans nos luttes. Nous continuerons d'exiger la liberté et le bien-être de tous. Finalement, je veux aussi remercier tous les compagnons et les compagnes qui se sont joints et qui se joindront toujours à nos exigences pour la justice et la liberté de tous. Alors, compagnons et compagnes, aujourd'hui, nous les prisonniers de la Voz de la Mate, Voces Inocentes et Solidarios de la Voz de la Mate, rendons publique notre décision d'arrêter notre grève de la faim pour des raisons de santé. Certains parmi nous subissent déjà des pertes de mémoire. L'état de santé de plusieurs prisonniers s'aggravait. C'est pour cette raison que nous avons arrêté. Mais nous ne renonçons pas parce que le gouvernement nous a demandé de le faire, mais au contraire. Nous renonçons à cause de notre situation de santé qui s'est aggravée, et pour pouvoir continuer à lutter. Tant qu'il y a de la vie, il y a une espérance pour continuer la lutte. Toujours pour la liberté, pour la justice et le bien-être de tous. Et je demande aussi au gouvernement qu'il intervienne en nous rendant la liberté qui nous revient. Qu'il nous rende la liberté qu'il nous a volée. Nous continuons à exiger et à exhorter au gouvernement notre remise en liberté, comme celle du compagnon Alberto Patistán Gómez, qui se trouve aujourd'hui incarcéré dans la prison de Guasave, Sinaloa. Nous exigeons que le gouvernement fédéral intervienne immédiatement pour la liberté de nous tous et pour celle de tous les prisonniers politiques dans ce pays. Merci beaucoup, compagnon.
La grève de la faim est désormais finie. Les autorités, qu'elles soient locales ou fédérales, ont fait la sourde oreille durant toute cette grève, en espérant qu'ils crèvent en silence. Mais, comme le disent les prisonniers, nous continuerons à lutter avec la vie. Tant qu'il y a de la vie, il y aura des possibilités de continuer la lutte pour la justice et le bien-être de tous. Mais nous n'allons pas le faire comme le mauvais système le voudrait. Elles et ils ne creveront pas. Leurs voix ne seront pas tues. Elles ont déjà dépassé les frontières du Mexique et sont portées par plusieurs collectifs au niveau international. Alberto Patistán se trouve dans une prison de haute sécurité. Le 8 novembre, sa fille, Gaby Patistán, a pu le visiter.
Cette semaine est sortie une commission pour aller visiter mon papa. Nous sommes partis lundi matin et arrivés mercredi à Guasave. Nous sommes arrivés à la prison qui est encore en construction. Nous avons pris quelques photos que nous allons vous montrer plus tard. Nous avons parlé à l'assistance sociale et nous lui avons remis les papiers nécessaires pour les visites, car il faut faire beaucoup de démarches administratives et ici la réponse peut durer 15 jours. Mais étant membre de la famille directe, nous avons le droit à une autorisation de visite provisoire. Ces types de visites se font séparer par un légiaphone. Ils m'ont donné 20 minutes après avoir attendu 4 ou 5 heures. Ils m'ont donné 20 minutes pour entrer dans la prison. Une fois à l'intérieur, ils m'ont fouillé comme d'habitude. Seulement qu'ici, c'est plus compliqué de passer. Alors j'ai pu voir mon papa, mais malheureusement, je n'ai pas pu l'embrasser comme je voulais. Je pouvais seulement le voir à travers une vitre qui nous séparait, comme on le voit dans les prisons des gringos. Cette prison est un peu pareille. Alors il m'a raconté comment s'est passé son transfert de prison, comment est-ce qu'il a été pris par les autorités, comment il a été trompé par les directeurs de la prison numéro 5 qui, pour l'isoler, lui a dit que les autorités du gouvernement l'attendaient dehors. Alors mon père les a suivis. À ce moment-là, le directeur a dit au gardien « Prenez-le ». Il n'a pas pu se défendre ni communiquer avec personne. Ensuite, il est passé par différentes prisons et finalement, il est sorti par l'aéroport de Tapachula au Chiapas, d'où il a été amené ici à Guasave, Sinaloa. Je veux aussi rappeler que mon père est malade des yeux. Il souffre de glaucome. Pour soigner sa maladie là-bas au Chiapas, il suivait au moins un traitement qui stabilisait et contrôlait la maladie, puisque malheureusement cette maladie ne disparaît jamais. Mais au moins avec un traitement adapté, on pouvait le stabiliser. Mais la situation actuelle, ici où il se trouve, ils ont suspendu les traitements. Ils ont donné des gouttes pour les yeux, mais ces médicaments-là n'ont rien à voir avec sa maladie. Et ils lui en donnent seulement une fois par jour. Actuellement, sa vision continue à se dégrader et il souffre d'une gêne constante. C'est ce qu'il m'a demandé de communiquer aux personnes et aux médias pour qu'ils se rendent compte de comment cela se passe et puissent faire quelque chose pour qu'ils reçoivent l'attention médicale adaptée. Il m'a remercié Et il m'a demandé de remercier les organisations qui l'ont accompagné. Et vraiment, il garde l'espoir et il est confiant. Pour lui, les choses n'arrivent pas par hasard. Et donc, il a confiance en son innocence. Et aussi, il fait confiance aux compagnons qui demandent sa liberté. C'est tout ce que je peux vous dire parce que j'ai eu très peu de temps pour parler avec lui.
Gloria Arenas est une ex-prisonnière politique. Elle a passé 10 ans en prison et a été libérée le 28 octobre 2009. Gloria, qui a connu les prisons fédérales, nous apporte son témoignage suite au transfert d'Alberto.
Les transferts du compagnon Patistán vers une prison fédérale constituent une représailles. C'est une punition contre le mouvement, clairement contre la grève de la faim, contre les familles des détenus, contre les prisonniers et contre les mouvements en général, car cela nous affecte tous. Et je t'ai dit cela parce qu'en effet, il y a une différence. Les transferts de compagnons est une punition dans les sens où les prisons fédérales, la majorité d'entre elles, sont des prisons de haute sécurité. Je ne connais pas exactement la prison des Guasave, mais même si elle est des moyennes sécurités, à l'intérieur du système fédéral, ils sont beaucoup, beaucoup plus stricts que dans les prisons d'État. Écoute, concrètement, nous pouvons dire que dans les prisons de l'État, il est plus facile de conserver de la liberté. Cela paraît contradictoire, mais bien que tu sois en prison, tu conserves la liberté de décider. De décider plusieurs choses que tu peux faire de ta vie et de ton temps. Tu peux faire des activités, tu peux lire, tu peux dessiner, tu peux travailler et faire ce que tu veux faire. Faire du théâtre, jouer la guitare, que sais-je. Tu peux écrire, t'informer, lire des journaux, des revues. Et dans les prisons fédérales, ils ne te laissent pas du tout faire tout ça. Non seulement pour ceux qui aient de la liberté des mouvements, du fait qu'ils étaient déjà enfermés, mais tu ne vois pas ta famille, et en plus, ils te retirent la faculté de décider. Par exemple, il n'est plus permis d'écrire, ils ne leur donnent même pas de quoi écrire, ils ne peuvent pas écrire, ne peuvent pas dessiner, ils restreignent beaucoup la lecture, car il autorise uniquement les lectures de livres qu'il y a dans la prison. S'il ordonne. Et c'est quelque chose qui est très dur quand tu es prisonnier. Parce que ces petits espaces de liberté que l'on construit, ils le détruisent aussi. Et bien évidemment, le système des prisons fédérales éloigne les prisonniers de leur famille. Et il y a beaucoup, beaucoup de conditions requises pour pouvoir être visiteur. Pour rendre visite aux prisonniers. Ainsi, on l'éloigne de ses compagnons, on l'éloigne de sa propre famille, surtout aussi par la distance géographique. Il éloigne bien sûr de ses compagnons des luttes, et ainsi on l'isole. Et c'est ça l'objectif des prisons fédérales. Elles provoquent beaucoup plus d'isolement que les prisons d'État. Les conditions de rétention sont plus dures, plus inhumaines. Déjà, la privation des libertés difficile. Les conditions d'emprisonnement à la prison de San Cristobal de Las Casas ne sont pas bonnes. Mais alors là, les conditions dans les prisons fédérales sont encore pires pour les prisonniers. Elles affectent beaucoup plus les nerfs. On est toujours harcelé, chaque minute qui passe, chaque instant est un instant sous pression. Pour détruire le système nerveux. Et cette mesure qu'ils ont prise de déplacer les compagnons, de les transférer des prisons, est une punition terrible pour les prisonniers, pour sa famille, pour les mouvements de Chiapas et pour nous tous en tant que mouvement.
José Diaz et André Núñez viennent d'être libérés sur parole le 15 novembre après plus de 9 ans de prison. Juan Collazo a continué sa grève de la faim pour exiger d'être transféré auprès de ses compagnons de lutte dans la prison numéro 5 de San Cristobal de las Casas, d'où il avait été transféré le 7 octobre 2010 vers Motocintla. Le 16 novembre, Juan a été transféré à San Cristobal et a pu retrouver ses compagnons de lutte. L'administration pénitentiaire empêche toujours les équipes médicales indépendantes d'entrer dans la prison pour apporter l'assistance médicale dont les prisonniers et prisonnières ont besoin. Ils et elles sont encore neuf à continuer leur lutte depuis l'intérieur de la prison. Comme l'autre campagne le dit, « Si nos tocan a unos, nos tocan a todos ». Un coup porté contre l'une ou l'un d'entre nous est un coup porté contre toutes et tous. C'est pourquoi la lutte continue et continuera jusqu'à ce qu'ils sortent tous, que ce soit au Chiapas, dans le Guerrero, à Mexico ou à Oaxaca. Alberto.
Rosario.
Pedro.
Juan.
Alejandro.
Alfredo.
Rosa.
Enrique.
Juan.
Nous ne vous oublions pas, la lutte continue. Nous ne sommes pas tous là, il manque les prisonnières et les prisonniers.
No estamos todos, faltan los presos, presos y presas, libertad.
Non siamo tutti e tutte, mancano i prigionieri e le prigioniere.
Presos políticos, libertad! Presos políticos, libertad!
Pour plus d'informations sur les prisonniers de l'autre campagne, vous pouvez vous connecter à libérons-les. .wordpress.com Libérons-les sans accent ni espace. Libérons-les.wordpress.com.